Bonjour, de retour sur Creative Disturbance. Je m'appelle Yvan Tina, je suis doctorant à l'université d'Aix-Marseille et à l'université du Texas à Dallas. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Morgane Meyer depuis Paris. Morgane, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît?
Bonjour. Je suis Morgane Meyer. Je suis chercheur et maître de conférences. Mes thématiques de recherche, c'est les nouvelles formes de biologie comme la biologie dite de garage ou la biologie de synthèse. Et je m'intéresse à l'émergence, la gouvernance et les débats autour de ces nouvelles formes de biologie. Et sinon, je m'intéresse aussi à l'intermédiation des savoirs entre le monde de la science et le monde politique ou la société de façon plus large. Et je suis ce qu'on pourrait qualifier de sociologue. Je suis un sociologue des sciences, donc je suis chercheur et je donne des cours en sociologie des sciences.
Où est-ce que vous enseignez?
J'enseigne à AgroParisTech, une école d'ingénieurs à Paris. Et je suis chercheur associé à l'INRA.
Ok, d'accord. Effectivement, on avait eu l'occasion de se rencontrer lors de la journée d'Ecalab au LAT organisée l'an dernier sur le thème de la biologie de synthèse. Dans votre intervention, vous parliez du bricolage du vivant qui se ferait, qui se développerait en ce moment dans les garages notamment. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur l'histoire, les sources de ce mouvement?
C'est un mouvement, le do-it-yourself biology ou biologie de garage, qui commence vers l'année 2008. Première association qui est lancée à Boston. Au début, c'est 25 membres. De nos jours, on compte environ 4000 membres à travers le monde. Wow. De nos jours, il y a environ une cinquantaine de labos à travers le monde. C'est surtout dans les grandes villes aux États-Unis, côte Est, côte Ouest, et en Europe, comme Manchester, Madrid, Paris, Prague ou Amsterdam. Mm-hmm. Et en France, il y a aussi des laboratoires communautaires de biologie du garage, comme la Paillasse, qui a été fondée en 2011.
Vu de loin comme ça, j'ai l'impression en tout cas que moi, que ce mouvement-là est beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons. Pourquoi est-ce que vous avez le même sentiment? J'ai l'impression que dans les pays latins d'Europe, ou en France en tout cas, on a un peu de retard sur toute cette thématique bio-art, do-it-yourself et tout ça. Est-ce que vous avez le même sentiment comment est-ce que vous l'expliquez en fait?
Oui, c'est vrai, je partage un peu votre analyse. Donc, c'est vrai que la moitié des labos de biologie des garages se situent aux États-Unis, comme j'ai dit, soit côte Est, soit côte Ouest. Il y en a une vingtaine en Europe et c'est surtout, en Angleterre, il y en a à Londres, Manchester, Nottingham.
Oui, à Amsterdam, il y a la Wax Society, il y a plein de choses qui se passent en Finlande, voilà.
Et plus on va vers le sud ou plus on va vers l'est, on aura moins de... Il y a quelques labos qui sont créés, par exemple aussi en Asie, à Singapour, au Japon. Mais c'est vrai que c'est un mouvement qui se développe surtout dans les pays anglo-saxons et les pays du Nord et moins dans les pays du Sud et de l'Est. Et pourquoi c'est le cas, je ne saurais pas trop vous dire. C'est un certain optimisme technologique ou une technophilie ou un certain envie d'être entrepreneur, mais je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi.
Oui. Et vous me disiez donc en préparant l'entretien que ce mouvement trouve ses sources dans le hacking. Donc, en quoi donc cette origine du biohacking est liée au développement parallèle de l'informatique et du mouvement hacker, quoi, en fait.
C'est une chose que je suis en train d'analyser dans mes travaux de recherche et ce que je trouve intéressant, c'est la référence omniprésente à Steve Jobs. Et donc, c'est une figure qui revient tout le temps quand les personnes qui font de la biologie des garages vont parler de leur mouvement. Ils vont toujours se comparer, se référer à Steve Jobs. Et l'idée, c'est en fait celle-ci que Steve Jobs, dans les années 70, il a commencé aussi dans un garage. Il bricolait les ordinateurs. Et de nos jours, Steve Jobs est quelqu'un de mondialement connu. Il a révolutionné le monde. En créant l'iPhone et d'autres choses. Et donc la comparaison, elle est faite pour dire que dans les laboratoires de biologie des garages, Les biohackers, ils vont faire un peu la même chose. Ils vont peut-être aussi donner naissance à une révolution, pas en bricolant l'équipement informatique, mais en bricolant carrément le vivement, les cellules, les algues, les champignons, les plantes. Et donc cette comparaison, on peut la qualifier de promettante. Donc c'est une promesse qu'on va faire en se référant tout le temps à Steve Jobs.
D'accord. En fait, l'idée, c'est que les biotechnologies ou le vivant a le même potentiel que le numérique, en fait.
Ouais, exactement, ouais.
Et aussi, je me souviens de l'exemple de cette fille, comment elle s'appelle, cette américaine qui avait soigné son père en construisant un laboratoire dans son garage toute seule.
Oui, donc elle s'appelle Kay Aoul,
Ok.
Kayaull. Et donc
Oui.
c'était à l'époque une jeune étudiante en informatique ou en bioinformatique à l'Université de Californie à San Francisco. Et en fait, son père, il était atteint d'une maladie qui s'appelle hémochromatose, qui est une maladie du sang et qui est une maladie génétique. Et donc, elle voulait savoir si elle portait aussi le même gène défectueux. Elle aurait pu faire le test en l'achetant, en envoyant un échantillon à une petite entreprise. Mais en fait, elle a expérimenté, elle a voulu savoir si elle pouvait faire ce test à la maison. Et donc, elle a construit. Avec approximativement 1 000 $, elle a construit un petit labo. Donc, elle a acheté sur eBay du matériel, elle a bricolé elle-même certaines choses. Et donc, grâce à ce labo de fortune, elle était capable de détecter, de faire un test génétique sur elle-même. Et elle a vu qu'en effet, elle avait le même défaut génétique.
Oh, on est arrivant toute seule en fait.
Oui, en arrivant toute seule. Et donc, comme j'ai dit, elle a acheté du matériel déjà utilisé sur Internet. Sinon, par exemple, ce qu'elle a fait, elle a construit un incubateur. Et donc, elle a utilisé une boîte d'emballage en polystyrène. Elle a utilisé un thermostat d'un aquarium, un petit ventilateur, un thermomètre digital. Et là, mis tout ça ensemble pour fabriquer un incubateur qui normalement coûte plusieurs centaines ou milliers
Une
d'euros.
fortune.
Et donc,
Ouais.
elle s'est fabriqué son labo elle-même. Et donc, c'est vraiment une des histoires les plus connues du do-it-yourself biology.
Dans cette présentation, je pense qu'on pourra retrouver d'ailleurs sur le site MetaLife de Leonardo Latt, vous insistiez aussi sur l'économie de ce mouvement. Comment justement les biohackers parvenaient à diviser le coût de ces expériences, parfois jusqu'à 100, parfois, oui, je crois, hein,
Oui.
en se servant de webcam plutôt que de microscope ou de. Ou voilà, en variant leur stratégie, quoi. Moi, j'aimerais maintenant revenir d'abord sur une question qui me tient, c'est-à-dire, elle est où la frontière ici entre l'art et juste la pratique amateur et c'est quoi votre avis là-dessus? Quelle est l'esthétique en fait du do-it-yourself biology?
Oui, c'est une bonne question. Les frontières, je crois pas qu'elles sont étanches ou nettes entre biologie ou art ou pratique professionnelle ou pratique amateur. Et si on va regarder de près ce que font les gens dans les laboratoires de biologie des garages, on trouve à la fois des projets, on va dire, scientifiques, créer un bioréacteur. Donc, c'est plus ou moins un récipient où on cultive des algues ou des champignons, par exemple, pour après fabriquer de la bioénergie ou des aliments ou autre chose. Donc, il y a des choses scientifiques. Il y a aussi beaucoup de choses quand même assez ludiques ou voire artistiques. Et donc, il y a aussi du bio-art. Par exemple, utiliser des bactéries fluorescentes pour faire du bio-art.
Mais elle est où la frontière entre ce que fait quelqu'un comme, je sais pas, je dis au hasard, je cite des grands noms, un Orrin Katz et ce que font ces gens dans leur garage, enfin Orrin Katz ou les autres, hein, je prends celui-là au hasard.
Peut-être que l'âge, C'est peut-être déjà une différence que dans ces labos de biologie des garages, on trouve surtout des jeunes, on va
Oui.
dire entre 25 et 35 ans. Souvent, ils n'ont pas de diplôme, donc ils sont. Non, pardon. Souvent, ils ont un intérêt pour les sciences, donc souvent, ils vont être diplômés de biologie ou d'informatique. Mais peut-être c'est des gens qui sont encore moins dans une vraie vie professionnelle où c'est souvent pas des chercheurs et c'est pas encore des artistes confirmés. Et donc c'est un endroit, on va dire, un peu plus ouvert à l'interdisciplinarité, plus ouvert à des projets qui n'ont peut-être pas des débouchés directs ou des implications économiques ou scientifiques directs. Donc c'est un lieu peut-être encore plus d'expérimentation. Et de liberté que d'un côté le laboratoire classique ou de l'autre côté le studio d'un artiste qui quand même doit créer certaines œuvres ou qui a intérêt à les montrer à un public. Et donc là, peut-être la frontière ou les différences, c'est que on a peut-être plus de liberté et moins de contraintes pour bricoler le vivant, que ce soit pour la science ou pour l'art. Ouais.
Je sais pas. Oui, non, j'écoute attentivement, mais je me demande, est-ce que ça veut dire, vous êtes en train de dire les artistes ont moins de liberté, si je comprends bien. Enfin, est-ce que Oren Katz ou Eduardo Katz ou les tenants de ce mouvement-là, vous considérez qu'ils manifestent moins de volonté dans leur démarche?
Je dirais peut-être les grands noms, ils ont le luxe d'avoir de la liberté, mais si vous demandez la même question à un jeune artiste qui essaye d'exposer ses œuvres, qui essaie de rentrer dans le circuit avec ses lieux d'exposition, ses musées, ses critiques d'art,
À la paillasse, par exemple.
à la paillasse, mais je dirais aussi un autre, un artiste qui vient d'être diplômé d'une école, je crois lui, il aura beaucoup moins de liberté qu'un Oro Katz ou Eduardo Kac, qui eux sont très connus et donc qui eux ont, je crois, plus de liberté. La même chose compte pour, si on compare un chercheur ou un prof déjà établi, et un jeune chercheur qui vient de débuter sa carrière, il y a plus disons de contraintes à être productif, à se montrer. Il y a des contraintes aussi par rapport au choix des thématiques. Peut-être il y a la contrainte financière. On doit trouver des financements, des lieux de communication. Et ouais, peut-être oui. Les grands noms, ils ont peut-être la même liberté qu'un jeune qui vient de commencer, mais c'est qu'une petite fraction peut-être du bio-art ou de l'art. Ouais.
Ok, mais si je comprends bien, en fait, il n'y a pas de geste artistique qui sous-tend en général les démarches dans le do-it-yourself mouvement.
Ouais.
Juste pour, avant de conclure, parce qu'on arrive vers la fin du podcast, je voulais parler des risques, de la menace, enfin, des questions éthiques que ça pose en regard, par exemple, de ce qui se passe actuellement au niveau du terrorisme. Qu'est-ce qui se passerait si ce type de matériel arrivait dans entre guillemets, de mauvaises mains? C'est, je crois, le sujet actuel de vos recherches. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Oui, tout à fait. Les dangers qu'on imagine, ils sont nombreux. Ça peut être des accidents, ça peut être la contamination de l'environnement, ça peut être la fabrication de virus. Et en fait, le risque qui est le plus souvent soulevé par les médias, mais pas seulement, il risque vraiment de bioterrorisme. Que se passerait-il si quelqu'un de malveillant, si un terroriste utiliserait ces nouvelles technologies, ces nouveaux équipements qui sont plus accessibles, plus abordables, moins chers, donc utiliserait cet équipement pour fabriquer des armes biologiques ou virologiques. Et donc, j'ai parlé avant de Steve Jobs, donc ça c'est une figure qui est omniprésente. Et l'autre figure que j'analyse dans mes recherches, c'est celle du bioterroriste qui produirait des virus grâce à la do-it-yourself biology. Et donc là, c'est quasiment diamétralement opposé. Donc là, c'est une figure très négative qui représente le risque, le danger, quelque chose à éviter. Alors Steve Jobs, c'est la promesse de futur, l'optimisme, l'innovation et tout ça.
Dans un précédent podcast qu'on peut retrouver sur Creative Disturbance, je m'étais entretenu avec Thierry Bardini, que je ne sais pas si vous connaissez, et on parlait justement de la convergence entre virus informatique et virus biologique. Est-ce que c'est l'une des pistes aussi potentielles de recherche et de ces menaces?
Je connais Thierry, j'aime bien ses travaux, mais donc je me distinguerai ici de lui en disant
Oui.
dans mes travaux, je vois quand même une différence assez nette entre le virus biologique et le virus, on va dire, informatique, ou plutôt le virus pris dans le sens de viral.
Oui.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que on va parler d'innovation virale. C'est une façon de qualifier des nouvelles formes d'innovation qui sont plus vite, qui se répandent plus. L'affiche de Obama Hope, on dit que c'est aussi, ça a été une campagne virale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les innovations, l'innovation des iPhones de Steve Jobs, on peut aussi la considérer comme virale. Et donc, il y a quand même une différence importante entre la viralité biologique et la viralité, on va dire, communicationnelle.
Numérique.
Numérique, ouais. La viralité biologique, elle a besoin d'un confinement, elle pose problème. La viralité numérique, elle est quelque chose de recherché.
Oui.
C'est aussi des êtres différents. C'est l'être vivant opposé à l'image ou l'innovation ou au produit. Et donc, il y a quand même des différences, on va dire, ontologiques, des différences de confinement ou de réponse des pouvoirs publics, ça suppose. Et donc, il y a quand même des différences, je dirais quand même, ou différents types de viralité qu'on voit.
Donc vous voyez aucune convergence possible entre les deux.
Pour moi, la convergence sémantique, elle ne suffit pas à dire que on a des types de viralité qui se ressemblent. C'est vrai, on utilise le même mot, mais ce serait.
Mais je me souviens très bien de notre entretien. On parlait, il m'a texte à l'appui. Hein, il faudrait que je les retrouve. Peut-être que je les mettrai en ligne. Mais il me disait, il me soutenait que, et je l'avais lu effectivement, que aujourd'hui, par exemple, avec ce qui se passe dans les laboratoires de Craig Venter et avec les biohackers, il était de plus en plus possible de synthétiser des virus et de les inscrire dans des codes informatiques. Donc, il y a une réelle convergence qui est possible
Oui,
apparemment.
ça, par rapport, je dirais là, je suis d'accord, il y a une convergence peut-être de manière de fabriquer le virus, on va dire le virus biologique. On peut aller le chercher, on peut aller théoriquement en Afrique rechercher le virus Ebola, le ramener quelque part et en faire une arme. On peut aussi, dans ce
Oui.
laboratoire, écrire le code génétique pour fabriquer un virus comme l'Ebola ou un autre. Je dirais là,
OK.
les moyens de fabrication de virus pourraient être les mêmes. Mais il n'en reste qu'il y a différents types de viralité ou de distribution, de circulation des bactéries ou des produits qui émanent de ces laboratoires qui sont quand même pour moi différents.
D'accord. Bah, écoutez, merci. Je serais bien de poursuivre cette discussion entre vous et Thierry, du coup. Enfin, entre nous trois, pour élargir la discussion. Merci beaucoup, Morgane Meyer, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci aussi.
À bientôt.
À bientôt.